Je vais vous donner un petit peu les critères que choisit Warren Buffett et moi sur lesquels je me suis inspiré et lesquels j'ai un peu adapté en fonction du marché français surtout. Je ne les ai pas adaptés parce que je me considère meilleur et je n'ai pas voulu les modifier parce que je me considère meilleur, non. Je les ai juste un peu adaptés par rapport au marché, par rapport au marché français parce qu'on n'est pas du tout sur, par exemple, le même type de rendement. Aux États-Unis, on a beaucoup moins de rendement. On n'est pas sur le même type de marge nette parce que pourquoi? On est beaucoup plus imposé en France, donc on ne peut pas retrouver le même taux de, même le même taux de marge en France ou aux USA. Enfin, voilà. Il faut remettre ça en fonction de votre secteur géographique. Mais voilà, je vais vous donner quelques indicateurs qui vous permettront de savoir si vous êtes sûr ou sous-évalué, comment évaluer une action, etc. Donc voilà, je vais vous donner les 10 règles que Warren Buffett s'impose pour investir en bourse. Donc il y a vraiment 10 règles qui sont vraiment incontournables, qu'on peut adapter au marché français. Ça après, je vous laisserai libre de faire vos choix. Toutes les règles ne sont pas importantes. Toutes les règles ne doivent pas être prises en compte de la même manière. Toutes les règles ne sont pas indispensables, surtout dans le marché français. Et on n'est pas obligé de valider toutes les règles pour acheter une action. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Mais bon, c'est quand même des règles à prendre en compte. Et puis ça peut aussi vous servir de culture générale. Donc la première règle, c'est avoir 25 millions de capitalisation boursière. Pourquoi? Ça permet déjà de détecter pour Warren Buffett les sociétés qui sont stables et ayant une certaine maturité sur le secteur. Voilà, donc on va passer quelques petits comme ça ratios qui sont importants. Ensuite, le taux de marge. Le taux de marge net doit être supérieur à 15%. Pourquoi? Déjà en France, je l'ai mis à 10%. Donc pourquoi de 15, 10%? C'est parce que ça permet de montrer que l'entreprise a un pricing power, c'est-à-dire que 10% ou 15%, ça permet vraiment de montrer que l'entreprise fait sa marge comme elle le souhaite. Elle peut augmenter les prix, elle a une marge de manœuvre, il n'y a aucun souci, parce que les entreprises qui font 2-3% de marge, on sent qu'il y a une concurrence qui est féroce. Taux de marge net entre 10 et 15%. 15%, ça va être vraiment sur le secteur du luxe et voilà les secteurs très nichés. Hein. 15% en France, c'est assez rare. Ensuite, règle numéro 3, un taux de marge sur 5 ans supérieur à 20%. Alors là, oui, taux de marge supérieur à 20%. Moi, je dirais plus entre 10 et 15 encore sur 5 ans. Là, on reste un peu sur la même règle que je vous ai dit juste avant. Si vous avez supérieur en tout cas à 10 en marge nette, vous pouvez être assuré que vous avez un certain pricing power sur le secteur. 20%, on est vraiment sur de l'US, on est vraiment sur le marché américain. Le bénéfice net par action doit être supérieur de 5% sur 5 ans. Donc la croissance, je pense qu'ils veulent dire la croissance du bénéfice net sur 5 ans doit être supérieure de 5%. Alors oui, ça c'est indéniable, je suis complètement d'accord. 5% c'est le minimum, même je dirais. Donc comment vous faites, hein, vous faites n-1 divisé par n-1, vous regardez si vous avez une croissance de 5%. Donc n-1 divisé par n-1. Voilà, par exemple, vous avez une croissance en N. Si vous avez un BNA sur N de 5, vous avez un BNA de 4 sur N-1, bah vous faites N plus 1, donc vous faites 5 moins N-1, 4 divisé par 4, et vous avez une croissance qui est calculée. Donc ça permet également de déterminer, comme je l'ai dit, les entreprises qui arrivent à distribuer un dividende sans se sacrifier, et puis avoir cette croissance-là, plutôt que de regarder année après année. Lissé sur 5 ans, en fait, ça vous permet d'avoir une perspective long terme, c'est-à-dire ne pas avoir les fluctuations du marché année après année, parce qu'on peut avoir des années où on a plus d'investissements, avoir des années où le résultat est un peu plus mauvais, ou avoir une année où on a plus de rachats d'actions, moins de rachats d'actions. Donc, ça permet vraiment de lisser et d'éviter cet effet de Dancy sur le marché. Vraiment regarder sur 5 ans, moi je regarderais vraiment entre 5 et 10 ans. 5 ans, c'est pas mal, parce que souvent on n'a pas les données sur les sites. Avant 5 ans, enfin, il faut vraiment aller chercher un peu plus loin. Mais déjà, 5 ans, c'est pas mal, ça permet de lisser. Ensuite, la règle numéro 5, c'est le price to book. Donc, le price to book est inférieur à 4. Donc, ce price to book, faut pas confondre ça avec le PER, parce que c'est vraiment deux ratios qui permettent de déterminer si une action est sur ou sous-évaluée. Le price to book, attention, déjà, on est vraiment sur un price to book qui est inférieur à 4. On n'est pas du tout sur des 20, sur des 15 ou 20 par rapport à 15 ans, 20 ans. Pas du tout là-dessus. Là, on est vraiment sur est-ce que la capitalisation est supérieure à l'actif net comptable de l'entreprise, c'est-à-dire en comptant les usines, en comptant les bâtiments, etc. À combien de fois est égale la capitalisation boursière par rapport à l'actif net comptable de l'entreprise? Donc ça, c'est très intéressant de voir ce price-to-book ratio au-dessus de 4. on peut considérer qu'elle est surévaluée ou du moins commencer à faire attention, commencer à faire des recherches. Donc voilà, pour faire un petit résumé de mes parcours, pour reprendre les 5 points, valorisation boursière supérieure à 25 millions d'euros, taux de marge nette entre 10 et 15%, taux de marge nette sur 5 ans, moi je dirais encore entre 10 et 15%, ils mettent 20 ans. Oui, sur les entreprises étrangères, les entreprises françaises, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, je vous mets au défi de trouver vraiment un portefeuille diversifié avec 20% de taux de marge nette sur 20 ans. Un bénéfice net par action sur 5 ans supérieur à 5%, tout à fait. Et un price to book value inférieur à 4. On va parler maintenant des points 6 à 10. Donc, le price to cash flow inférieur à 8. Donc, qu'est-ce que c'est le price to cash flow? C'est le ratio entre la valorisation boursière et le cash flow de l'entreprise. En gros, ça permet de déterminer si l'entreprise est sur ou sous-évaluée par rapport au cash flow généré. C'est-à-dire que si l'entreprise est inférieure, si la valorisation de l'entreprise est inférieure à 8 par rapport au cash flow, ça veut dire qu'on peut commencer à s'y intéresser. Mais encore une fois, c'est des ratios qui sont vraiment, qui viennent pour moi entourer le reste. Parce que pour moi, le résultat, la marge, la dette, est beaucoup plus importante pour moi que le price to cash flow typiquement, parce qu'on peut avoir des entreprises qui génèrent plus de cash flow que d'autres. Et en fait, pour moi, c'est mieux pour comparer une avec l'autre, mais pas pour déterminer si vraiment elle est sur ou sous-évaluée celle-là. Ça permet vraiment de se décider, plus que vraiment d'analyser, même s'il reste utile et il est très très important. Et dans tous les cas, dans les livres de Warren Buffett, il est bien précisé. Il faut néanmoins quand même le dire. Le price earning ratio, alors ça, le PER, tout le monde parle du PER, c'est celui qui est le plus affiché. Oui, il est important, mais c'est pas du tout le plus important. Le PER, il permet de vous dire rapidement si l'entreprise est sur ou sous-évaluée, s'il est supérieur à 15 pour Warren Buffett. Sauf que Warren Buffett, ce qu'il vous dit pas, il va pas comment vous donner toutes les clés. Et ce que je peux juste vous dire en plus, c'est que oui, 15 pour PER supérieur à 15, c'est bien. Sauf que encore une fois, pour vous aider, si le secteur il a un PER moyen de 8, par exemple sur le pétrole, PER moyen de 8, 9, pourquoi vous allez commencer à payer des entreprises qui ont un PER de 12, de 13, donc c'est inférieur à 15, certes. Mais si le secteur est à 8, posez-vous des questions. Et encore une fois, des entreprises de qualité qui sont à 17, 18, 19, 20, 21, 22, eh ben on peut se dire elles sont surévaluées, c'est supérieur à 15. Mais encore une fois, est-ce que le secteur il est supérieur à 15? Est-ce que c'est des entreprises qui confirment chaque année les estimations des analystes? Est-ce que c'est des entreprises qui sont à la mode? Est-ce que c'est des entreprises qui ont des fondamentaux solides qui rassurent pendant les périodes d'inflation? Alors voilà, faire vraiment attention, faire vraiment ce comparatif. PER supérieur à 15, pour moi, c'est vraiment une moyenne. Mais c'est pas du tout un indicateur qui, pour moi, pourra vous montrer si oui ou non l'entreprise est sur ou sous-évaluée. Il faut vraiment après faire votre évaluation, votre comparatif. Le ROI, return on investissement, le retour sur investissement, tout simplement, supérieur à 15%. Oui, 15, 10, 15%. En France, c'est très bien. 10, 15%, 15%, rester sur 15%, c'est bien. Donc, qu'est-ce que c'est le ROI? C'est combien d'argent on récupère par rapport à un investissement. Pour vous donner un petit exemple, vu que ça définit le retour sur investissement, lorsqu'on investit 1 500 euros, ramenant 100 euros, on a un ROI de 100 euros sur 1 500 euros, ce qui donne 6,6%, avec un minimum de 15%. Là, typiquement, Warren Buffett, il dit ciao. Il ne s'intéresse pas du tout aux entreprises inférieures à 15%. Moi, je dirais oui, mais il faut faire attention. Si déjà, je le regarderai sur plusieurs années, et puis on a les entreprises, encore une fois, il faut comparer, mais si vraiment on a des entreprises qui ont un ROI de 2%, comparer déjà si c'est une entreprise qui investit beaucoup, si c'est une entreprise qui investit beaucoup mais il n'y a pas de rentabilité sur son investissement, on peut commencer à mettre de côté. Si l'entreprise, ça fait longtemps qu'elle n'a pas investi, vraiment, faut voir. Mais c'est important de voir, de voir ce ratio qui soit supérieur à 15 parce qu'il permet de voir si dans le futur, si déjà elle confirme ses estimations passées de 15%, mais si elle continue à investir comme ça, on peut déjà avoir une visualisation de combien nous on va mettre, combien on va récupérer à la fin, parce que s'il y a du retour sur investissement, forcément, ça va revenir dans notre poche après. C'est aussi simple que ça. Et enfin, le MOAT, que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est l'avantage concurrentiel. Donc le MOAT, qui signifie en anglais fossé ou douve, ça montre littéralement la capacité d'une entreprise de se protéger de ses concurrents. Donc là, Warren Buffett préconise des entreprises qui ont un avantage concurrentiel, c'est-à-dire qui ont un taux de marge brut supérieur à 40% et un taux de marge nette supérieur à 20%. Donc là, encore une fois, oui, moi je dirais plus un taux de marge brute de 20% et un taux de marge nette de 10%. Donc ces taux de marge permettent vraiment de montrer si l'entreprise a la capacité de faire du pricing power, c'est-à-dire d'augmenter les prix en cas de nécessité, en cas d'inflation. Est-ce qu'elle a la capacité de ne pas trop les baisser quand il y a des marchés qui sont compliqués? Enfin voilà, vous avez capté. Il y a ces 9 règles qui sont indispensables. Moi, je rajouterais juste une règle. Moi, je voulais également vous rajouter le rendement sur fonds propres, le ROE. Donc, parce que Warren Buffett le regarde pas mal. Je ne l'ai pas vu sur le site là sur lequel j'ai regardé. Mais bon, je vais quand même vous le rajouter. Ce ROE, ça aide à trouver les entreprises avec un avantage concurrentiel durable. C'est Warren Buffett, encore une fois, qui le dit. Et il apprécie vraiment ce ratio. Et il apprécie les entreprises qui ont un ROE, donc un return on equity, un rendement sur fonds propres, de 20%. Donc ça, je suis d'accord avec lui. Je dirais même entre 10 et 20% en France. Franchement, on va être assez relax. 10 et 20%. ROE, regardez bien. Là, c'est des ratios qui vraiment sont assez visibles sur les sites tels que Zone Bourse, etc. Après, je vais également vous parler du ROA. Le ROA qui est le rendement de l'actif total. Donc, c'est un indicateur de barrière à l'entrée. Donc, le rendement sur l'actif total. Donc, plus ce rendement est élevé, mieux c'est, comme vous l'avez compris. Et ce rendement de l'actif total, lorsqu'il est de 15%, indique que pour 100 euros de ressources, donc d'usine, de matières premières, de cash, l'entreprise génère 15 euros de bénéfices. Vous l'avez compris. Un ROA supérieur à 15%, ou je dirais entre 10 et 15%, encore une fois. Donc, ROA entre 10 et 15%, ROE entre 10 et 15%, ROI. 10 et 15%. Je voulais vous parler de deux ratios qui sont, enfin deux ratios, le ratio de dépréciation amortissement sur marge brute et les intérêts financiers sur EBITDA, enfin, sur EBIT, pardon. Donc les dotations, les dépréciations et amortissements sur marge brute, les dépréciations et amortissements sur marge brute permettent de montrer le poids des dépréciations et amortissements sur cette marge. Et donc inférieur à 10%, ça peut présager un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Et enfin, un dernier, je ne vais pas vous donner tous les trucs parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et intérêt financier, que lui j'aime bien, c'est intérêt financier sur EBIT qui est inférieur à 15%, je dirais entre 15 entre 15 et 20% pour être bien. Lorsqu'il est supérieur à 20-25%, là ça commence à être chaud. L'EBIT, c'est l'excédent brut d'exploitation before interest, donc avant intérêt et impôts. Et intérêt financier, bah, c'est des intérêts que vous payez avec votre dette. Donc voilà, quelques petits critères à prendre en compte. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des petites idées en DM, donc Guillaume Alix Plus sur Instagram, à mettre les 5 étoiles sur Spotify, à vous abonner pour être au courant. Là, je teste des petits nouveaux concepts. Donc investir comme Warren Buffett, faire acheter, vendre sur des actions. Donc voilà, j'essaie de m'adapter, de trouver des nouvelles idées. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis à plus pour le prochain.